Salut à tous, salut à toutes, bonsoir Francis.
Bonsoir oncle Jean-François.
Alors vous êtes sur RTL 95.4 MHz et vous écoutez le mandarin merveilleux, les réducteurs de texte, comme tous les jeudis depuis plusieurs décennies.
Et oui, et comme tous les jeudis, il y aura ce soir des livres, de la musique classique et du jazz.
Absolument. Alors, je vois que vous avez encore porté des disques dédicacés.
Ouais, oui, évidemment.
Ouais. Est-ce que vous avez dans votre discothèque des disques de jazz non dédicacés?
Oui, il y en a...
deux ou trois.
De Miles Davis, que je n'ai pas eu la chance
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
D'attendre le stylo.
Alors, bien sûr.
Et bon. Vous avez deux beaux livres.
Alors, deux beaux livres intéressants. Un qui est très récent, c'est Leçon. Au pluriel, de Ian McEwan, et un livre qui n'est pas récent, qui a une dizaine d'années, de Chantal Thomas, qui s'appelle... Alors, Chantal Thomas, c'est l'académicienne...
Elle est académicienne, maintenant.
Absolument, elle est la spécialiste du XVIIIe siècle.
Et elle a son épée et son habit vert.
Ouais, et c'est une ancienne étudiante de Roland Barthes. Voilà, elle a enseigné aux États-Unis et elle a écrit beaucoup de choses. Bon, on y reviendra. Ça s'appelle « Le Testament d'Olympe ».
Très bien. Voilà, deux beaux bouquins pour donner des idées de lecture.
Voilà.
Et puis, je vois que vous avez de beaux disques classiques.
Alors, j'ai trouvé
dont un dédicacé par Jean-Sébastien Bach lui-même et un autre avec la signature et le cachet de Hector Berlioz.
C'est exact. Bon, mais moi, je ne suis pas un collectionneur maniaque de CD dédicacés comme certaines personnes que je connais. Voilà, Alexandre Tarot, qui est un excellent pianiste et en plus un type tout à fait sympathique et charmant. Donc, il a enregistré, je crois, peut-être pas l'intégrale, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sonates de Scarlatti.
Oui.
Beaucoup, peut-être toutes d'ailleurs. Et puis, un auteur moins connu qui s'appelle Bieber, un auteur du XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, et nous écouterons, et il a fait une sonate représentative.
Eh bien, écoutez, c'est fort intéressant.
Alors, vous verrez en quoi c'est représentatif.
Bien. Mais alors, par quoi allons-nous commencer?
Alors, nous allons commencer par... Alors, Franz Liszt, qui était le pianiste virtuose et le compositeur que nous connaissons, et aussi l'amant de la comtesse d'Agou. Je dis ça pour les ceux qui aiment le people. Voilà, Marie d'Agou.
Ah oui, c'était dans Gala le mois dernier.
Oui, c'est ça. Alors, donc Franz Liszt, qui était vous savez que à son époque, il était le seul à pouvoir jouer ce qu'il écrivait.
Oui, parce que ses mains étaient si grandes.
Non, non, c'est pas une question de grandeur de main, c'est une question de difficulté.
Ah ouais.
De difficulté. Absolument épouvantable. La technique des pianistes a fait des progrès et maintenant, bon, à tous les concours du conservatoire un peu élevé, bah, y a toujours
une
pièce de Liszt. Et alors, figurez-vous que Liszt admirait beaucoup Hector Berlioz, qu'il a rencontré à Paris, car Liszt qui a été un des premiers, pas le premier, je crois que le premier c'était Chopin, mais il a été un des premiers à mener une carrière de soliste.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il arrivait, on lui faisait un peu de publicité, on lui louait une salle, etc., etc., sur le modèle des tournées que les artistes contemporains font. Ça a été un des premiers. Avant, ils étaient rattachés à un orchestre ou... le plus souvent à une maison princière, une famille princière, telle Haydn, qui était attachée à la famille Esterházy. Voilà. Alors, donc, Liszt a rencontré Berlioz, il admirait beaucoup sa musique, et il a fait une adaptation pour piano d'un certain nombre d'œuvres, dont la symphonie fantastique.
Oui.
Alors, nous allons écouter le deuxième mouvement, un bal, interprété par Roger Muraro. Alors, quand je disais que la technique des pianistes avait évolué, Roger Muraro a une technique absolument époustouflante. On est vraiment, on crépite d'admiration à l'entendre. Et il nous a fait le plaisir de venir jouer. Alors, par exemple, il a joué le concerto de Maurice Ravel, le concerto en sol. à une allure. Alors il a fait comme Bis, il a repris le dernier mouvement encore plus vite.
C'était, voilà. Pressé, il avait un train.
Voilà, et sans doute. Alors il a eu tort, car comme le train aurait été en retard, comme toujours à Limoges. Bon, en tout cas, Roger Muraro, piano, ce deuxième mouvement de la Symphonie fantastique de Berlioz, arrangé par Liszt.
Thank you.
Voilà, c'était donc adapté par Franz Liszt, un extrait de la Symphonie fantastique de Berlioz, interprété par Roger Muraro, qui, je crois qu'il a toujours une classe au Sub de Paris de piano. Voilà. Ouais, si vous travaillez
magnifique.
beaucoup, et que vous entriez au Sub de Paris en piano, vous aurez peut-être la chance d'aller dans la classe de Roger Muraro.
Formidable.
Alors, je ne sais pas s'il y a une classe d'accordéon. C'est possible.
Je crois que oui.
Je crois que oui aussi.
Je crois que oui, ouais. Et je crois bien que c'est Sébastien Farge qui donne les cours, il me semble. On va vérifier.
Au Sub de Paris.
De Paris, non, je parlais de Limoges, moi.
Alors, à Limoges, ça c'est sûr. Oui, bien sûr, il y a une case d'accordéon.
Et c'est Sébastien Farge qui en a la charge.
Alors,
justement, écoutons-le dans ce très beau disque Origine, qui est sorti dans l'année 2023 au label Labori Jazz. Et où il est accompagné, en plus de ses musiciens jazzy habituels, de ses complices habituels, Amaury Fay au piano, je le cite parce qu'on entend le piano, Gauthier Laurent à la contrebasse, Francis Arnaud à la batterie. Il est accompagné aussi par un ensemble à cordes dont je vous avais parlé récemment, avec violon, alto et violoncelle. Et ça donne vraiment un disque magnifique qui est peut-être le disque de l'année en région Limousin ou au-delà d'ailleurs, hein. Vraiment un très très beau disque. Et on a pu entendre Sébastien Farge avec cet ensemble sur la scène de l'Opéra Théâtre de Limoges là dans le mois de novembre dernier. Voilà, je vous propose d'écouter une composition de Sébastien Farge qui s'intitule « Boîte à musique ». Voilà, boîte à musique.
Alors tout ça est fort bien.
Sébastien Farge et ses amis. Oui, et au piano, je le répète, c'est Amaury Faye.
Mais nous n'avons pas signalé, et peut-être n'avez-vous pas son nom, le travail de l'ingénieur du son, car l'enregistrement est absolument fantastique.
Salut,
la qualité technique, je dirais, du son.
Oui, est très pure. Hein.
C'est très pur, c'est formidable.
Samy Bouvet au studio de Meudon.
Ouais. Eh bien, Samy Bouvet, bravo Samy. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. Bon, non, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais moi, pour avoir assisté à des enregistrements de concerts classiques, c'est un travail absolument incroyable.
Oui.
Qu'ils recommencent. Après, ils font un montage mesure par mesure. Enfin, c'est évidemment ce qui s'est... Sauf pour les concerts en public, bien sûr.
Bien sûr, oui.
Mais
oui,
là, c'est formidable. Alors, donc voilà.
Allez, votre premier livre.
Premier livre, donc, c'est Chantal Thomas. Alors, Chantal Thomas, c'est pas la fabricante de petites culottes. C'est une homonyme.
Oui, ça s'écrit exactement pareil.
Pareil, voilà.
Bah, Chantal, il n'y a pas 36 orthographes.
Elle est originaire d'Arcachon. Qu'elle aime beaucoup, elle en parle, et c'est une grande nageuse devant l'Éternel. Voilà, elle aime beaucoup aller nager. Et donc, alors, elle a été l'étudiante de Roland Barthes, avec qui elle a fait sa thèse, et elle a enseigné un petit peu partout, beaucoup aux États-Unis. Et maintenant, eh bien, c'est une académicienne française. Voilà, elle fait partie des immortels. On lui doit le scénario de au moins deux films. Peut-être d'autres, j'en oublie, qui est Les Adieux à la Reine, avec Diane Kruger et Léa Seydoux. Et également L'Échange des Princesses.
L'Échange des Princesses, oui.
Qui est un... Alors, très franchement, Les Adieux à la Reine, je trouve que le film est supérieur au livre qui est un peu... qui traîne un peu... L'Échange des Princesses, magnifique. En plus, elle a travaillé comme une bête sur les archives espagnoles où les lettres qu'envoyait la petite princesse, elle avait 11 ans, qu'elle envoyait de France ont été conservées. Elle les reproduit certaines. Enfin bref, tout ça est très touchant et très intéressant. Alors là, c'était un petit peu avant le Testament d'Olympe. Alors, il s'agit d'une famille de nobliaux désargentés, mais très désargentés. Ils sont à Bordeaux et son père considère en particulier que le fait de travailler, de gagner de l'argent est une sorte de malédiction et de déchéance. Et alors il ne fout rien, il vit un peu de la charité de sa famille, etc. Et il a plusieurs filles. Et donc deux filles. Donc, une qui s'appelle Ursule et l'autre qui s'appelle Apolline. Alors, on nous raconte les aventures de ces deux filles. À un moment, Apolline, qui en a assez de vivre dans la misère la plus noire, a l'occasion d'aller à Paris. Et à Paris... Et sa sœur a disparu, sa sœur Ursule. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Et elle retrouve à Paris le journal de sa sœur Ursule, qui s'est fait un nom dans le milieu, disons, de la galanterie, sous le pseudonyme de Olympe, d'où le Testament d'Olympe. Et elle nous explique que... Alors, donc, c'est une espèce de deuxième roman où Olympe raconte comment... Elle est arrivée Alors, elle a commencé par être, non pas l'amante, mais la préférée, la protégée du maréchal de Richelieu, qui était le gouverneur d'Aquitaine. Et donc, grâce à lui, elle a pu aller à Paris, se lier avec le milieu du théâtre, grâce auquel, etc., etc. Donc, elle est passée de protecteur en protecteur. Et c'était une forme de prostitution chic. Mmh. Elle ne faisait pas le trottoir. Mais c'était une forme de prostitution. Alors c'est pour Chantal Thomas l'occasion de nous refaire vivre la vie quotidienne, j'allais dire, au XVIIIe siècle. Hein, comment est-ce qu'on mangeait, comment est-ce qu'on s'habillait et tout. Et alors, on pense, en lisant ce livre, entre autres, vous savez, quand on se dit les inégalités, les inégalités sociales, etc., dans notre monde. Mais à l'époque, c'était hallucinant. Entre les pauvres qui bouffaient de la soupe de rave et du mauvais pain tous les jours que Dieu faisait, et les aristocrates, et surtout les femmes, qui étaient habillées avec un luxe, avec de la soie, enfin, etc., inimaginable. Bref, Olympe arrive à rencontrer Louis XV, dont elle devient la maîtresse, et son idée, c'est qu'il faut qu'elle fasse un bâtard royal pour assurer son avenir. Malheureusement, ça ne va pas tourner comme elle l'entendait, puisqu'elle donne naissance, effectivement, à un fils, qu'elle appelle Louis. Et quand le roi Louis XV apprend ça, il la marie à un nobliot de l'Aubrac, il enlève l'enfant, en lui disant qu'il le fera élever par quelqu'un d'autre. Et donc Olympe se voit intimer l'ordre de suivre son mari dans un château en Aubrac, où évidemment elle s'embête, et c'est épouvantable, ben, elle a froid.
À l'époque, il n'y avait pas le TGV.
Il n'y avait pas le TGV. Il n'y a toujours pas dans l'Aubrac, mais bon.
Oui, mais comme il y a une station pas trop loin, ça met moins que les 7 ou 8 jours qu'il devait falloir à l'époque, davantage.
Alors évidemment, en plus on se gelait, mal chauffé. Donc elle mène une vie misérable et elle a très envie de savoir ce qu'est devenu son fils. Donc elle se débrouille. On lui a interdit de reparaître à Paris, et finalement elle ne résiste pas et elle va quand même à Paris, où bien sûr elle sera dénoncée, reconnue et enfermée dans une sorte d'asile de fous qu'elle décrit un peu, quelque chose absolument effroyable. Alors tous ceux qui ont lu les livres sur, vous savez, sur Pinel, sur Philippe Pinel, donc le libérateur des aliénés, c'est un petit peu plus tard, mais là c'est avant Pinel, et donc elle est à l'asile de Charenton ou je ne sais où, et voilà. Alors c'est un livre qui est intéressant parce qu'on apprend des tas de choses, et puis on suit les aventures de ces personnages. Voilà, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir combiné comme ça deux récit, parce qu'on ne sait pas ce que devient Apolline. Voilà. Mais c'est quand même un livre qui se lit avec plaisir. Donc voilà, Chantal Thomas, Le Testament d'Olympe, c'est un roman, c'est au Seuil, dans la collection Fiction et Compagnie.
Alors maintenant, on va écouter quelques pièces. Alors, quelques pièces que vous avez choisies.
Voilà, de Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Alors, Bieber, donc 1644-1704. Et je vous propose d'écouter...
Est-ce que c'est à peu près la période de Louis XV ?
Ah mais non, c'est avant Louis XV.
C'est avant.
C'est avant parce que...
Puisque Louis XIV est mort en 1715. Donc voilà. C'est à l'époque baroque.
C'est en pleine époque baroque. Hein. Alors, c'est un trio, donc le trio Romanesca, avec violon baroque Andrew Manse, Nigel North au luth et théorbe, et puis John Toll au clavecin et à l'orgue. Alors, une série de pièces qu'il a appelée une sonata representativa, avec un allegro, puis le rossignol, le coucou, la grenouille, le coq, la caille, le chat, pour terminer enfin par la marche des mousquetaires. Alors, nous allons écouter quelques... peut-être même en entier, parce que ce sont des pièces très brèves.
D'accord.
De ce Franz Ignaz Bieber, voilà, un peu original. Vous savez, j'essaye de trouver des choses pas trop connues, mais là, je crois que vous ne l'entendrez pas ni sur France Musique, ni sur Radio Classique.
Thank you.
Alors voilà, c'était le Rossignol que vous venez d'entendre, joué au violon baroque. Là aussi, je trouve l'enregistrement remarquable.
Oui.
Vraiment, il a bien su mettre en relief chaque instrument. C'est pas toujours facile avec des instruments baroques qui d'abord sont juste comme ça peut et
qui sonnent un peu moins,
évidemment. Vous savez, c'est toujours les cordes en boyau. Enfin bref, voilà.
Allez, un peu de jazz avant.
Alors,
le
un peu de jazz.
Bah, écoutez, il y a Eric Truffat, le trompettiste que tout le monde connaît, qu'on a vu plusieurs fois sur scène à Limoges et toujours avec grand plaisir, qui lui aussi s'est fait plaisir l'année dernière en sortant un disque avec ses musiques de films préférées, du film grand public, pas forcément des chefs-d'œuvre. Notamment, il y a une musique qui est extraite des Tontons Flingueurs, le thème de Fantomas, des choses comme ça. Et là, je vous propose d'écouter sa réinterprétation jazzy de la musique du film La Strada. Donc, tout à l'heure, hors micro, vous me disiez La Strada, c'est de Fellini. C'est même le film qui a fait connaître
Giulia
Masina, qui était son épouse ensuite. Et la musique originale était de Nino Rota, je crois. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur, c'est vous qui m'avez rectifié. Donc voilà, le thème de La Strada par Eric Truffat. Très pur de la trompette de Eric Truffat sur cette reprise
du
thème de La Strada.
Le thème de La Strada, alors vraiment tout le monde connaît.
Mais oui, on
même
a
quand
tous
on sait
dans
pas que ça vient de La Strada, on connaît cette musique. Alors, deuxième livre de Yann McEwan, Leçon au pluriel, c'est chez Gallimard dans la collection Du Monde Entier. C'est un assez gros livre qui fait 650 pages quand même. Et alors, comme j'avais parlé du livre de Jonathan Coe il y a quelque temps, les écrivains anglais intègrent leurs personnages dans l'histoire générale. Et là, quand ça commence, Roland, donc un jeune homme. Est quitté brutalement par sa femme qui le laisse tomber avec un bébé de 3 mois et qui lui laisse un mot en disant « Je ne peux pas continuer, mais je t'aime, essaye de me pardonner, etc. etc. S'il te plaît, n'essaye pas de me retrouver. » Voilà, elle disparaît. Alors, il connaît sa famille, il connaît, il la connaît, c'est son épouse, elle est allemande d'origine, il l'a rencontrée un peu par hasard en Angleterre alors qu'elle donnait des cours particuliers au Goethe-Institut. Voilà, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, et là, hop, elle part. C'est, je dirais en quelque sorte, le fil rouge de l'histoire, mais Roland remonte en arrière et nous parle de son enfance et en particulier d'une aventure à la fois érotique qu'il a eue avec une professeure de piano. Mmh. Et là, ça n'est pas un type lubrique, un affreux prédateur qui se jette sur une toute jeune fille, c'est plutôt la prof de piano qui l'initie, qui l'encourage, etc. Alors qu'il a, quand ça commence, il a 14 ans, et ça se poursuit, il a 16 ans, et elle est là, la trentaine. Bon, et l'idée de Ian McEwan, c'est que cette expérience va le marquer toute sa vie, mais finalement... Et c'est l'histoire de la vie de ce Roland, mais aussi... Quand ça commence, c'est l'affaire de Tchernobyl.
D'accord, le contexte.
Le contexte. Et le contexte du début de son aventure avec sa prof de piano, qui s'appelle Myriam, c'est au moment de l'histoire des fusées de Cuba. Mmh. C'est-à-dire qu'il est dans un état d'esprit où tout le monde peut penser qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale et que cette guerre-là sera une guerre nucléaire et qu'on risque sérieusement d'avoir une sorte d'apocalypse thermonucléaire. Et ça se poursuit comme ça. Il va retrouver... Roland va en Allemagne au moment du mur de Berlin, au moment où le mur de Berlin, en 89, si je ne m'abuse, tombe. Il revoit Alissa, donc son épouse, presque dans la rue. Et ils discutent, ils boivent un coup, et puis... elle va disparaître et pendant ce temps, et elle devient un écrivain très célèbre qui a, je crois qu'elle a le prix Nobel. Voilà, ça devient quelqu'un de la meilleure, la plus grande écrivain allemande depuis Elfriede Jelinek. Enfin voilà, elle fait une carrière formidable. Lui, pendant ce temps-là, il est pianiste, il joue dans un très grand hôtel, il vivote un petit peu tranquille, il écrit des poèmes et des articles pour les journaux, il vivote comme ça, voilà. Et alors, donc, je ne vais pas raconter l'histoire, il y a beaucoup de personnages, c'est très touffu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est intégré dans alors, l'histoire de Tchernobyl, la chute du mur, mais aussi le Covid, mais aussi le Brexit. Car au début, Roland est ami avec quelqu'un qui lance une entreprise pour faire des cartes de vœux, mais des cartes de vœux un peu chic et pas trop con, et ça marche très bien son affaire, et donc il en arrive, il fait du pognon grâce à Margaret Thatcher qui intervient, j'irais, dans la psychologie des personnages aussi, c'est-à-dire il y en a un qui devient riche, très riche, enfin voilà. Et alors ça, c'est très intéressant. D'abord, ça nous change des écrivaines françaises qui vous explique comment elles ont été violées par leur père et comment elles ont des problèmes avec leur maman. Là, c'est intégré dans la vaste histoire, je dirais un peu dans la tradition, par exemple, d'un Victor Hugo, où dans Les Misérables interviennent des éléments historiques. Et alors, il y a quelque chose, et je ne sais pas à quoi l'attribuer, si ce n'est peut-être au talent de Ian McEwan, mais c'est un livre qui vous implique et d'où on sort dans un drôle d'état. Une espèce d'état un peu... On est influencé par ce livre. Je l'ai terminé hier soir, en me disant, comme ça, mon impression sera fraîche pour... Eh bien, voilà, j'en suis sorti dans un état un peu différent, un peu changé, et ça, c'est vraiment la grande réussite de Ian McEwan. Vous pouvez lire tous les ouvrages de Ian McEwan qui sont tous traduits en français. Et je me rappelle avoir présenté, alors c'est pas un livre gay, hein, je me rappelle avoir présenté ici même un autre livre de Ian McEwan, beaucoup plus bref, qui s'appelle Sur la plage de Chesil. Et pareil, où il y a une atmosphère et un livre assez triste aussi, mais après tout, la littérature, c'est aussi l'art de vous faire éprouver avec des sentiments que, en fait, vous n'éprouvez pas. Voilà, Ian McEwan, Leçon au pluriel, et c'est chez Gallimard. Voilà, eh bien, un extrait de une sonate de Scarlatti, sonate, alors, en La majeur, numéro 208, dont nous avons écouté l'Adagio. Scarlatti a écrit près de 600 sonates pour clavecin.
Il en écrivait une tous les matins après son café.
Pratiquement. Pratiquement. Il écrivait des sonates vraiment par dizaines et par centaines. Et donc Alexandre Tarot a parcouru, dit-il, tenez-vous bien, les 555 sonates ainsi que les sonates retrouvées récemment. Et finalement, il en a gardé une trentaine. Sélection difficile.
En effet.
Scarlatti était le contemporain exact de Handel. Mmh. Voilà, pour vous situer le personnage, œuvre pédagogique essentiellement, qu'on fait beaucoup jouer aux apprentis pianistes, mais qui a son charme. Voilà, évidemment, c'est pas du Jean-Sébastien Bach, mais c'est pas mal quand même.
C'est très beau.
Alors, on va écouter. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau, Francis ?
Alors, on va écouter encore un peu de piano, mais cette fois du piano jazz. Je vous présente un musicien danois, un jazzman danois qui s'appelle Søren Bebe, et qui est très connu au Danemark et internationalement. Il est en tournée un peu partout, j'espère qu'on pourra le voir en France. Donc il joue en trio, donc là il a composé un disque l'année dernière, qui vient de sortir, qui s'appelle Here Now, ici maintenant, dans le cadre d'une maison qu'il a achetée dans la campagne danoise, avec ce côté un peu scandinave de langueur, mais d'harmonie, de oui. douceur, c'est vraiment très, très agréable à écouter. Écoutez, donc il est en trio avec son complice de toujours qui est bassiste qui s'appelle Kasper Tagel et puis un batteur qui s'appelle Knud Finsrud qui est danois aussi. J'ajoute que ce compositeur travaille aussi avec le conservatoire du Jutland. Il écrit des musiques pour les ballets et pour les danses contemporaines. Et je trouve que ça se sent un peu dans certaines compositions parce qu'il y a un sens du tempo qui est assez, assez présent, assez dansant. Voilà, je propose d'écouter un morceau qui s'appelle Winter. C'est d'actualité.
Bon, Eh bien voilà, c'est fini.
Mais ça recommence la semaine prochaine.
Ça recommence la semaine prochaine. Toujours sur RTF, toujours le jeudi, toujours sur 95,4. Ou bien...
En DAB+, pour ceux,
en
qui,
DAB+
ont,
pour des ceux qui ont... pour les 3 ou 4 personnes qui possèdent un récepteur DAB+.
Et en streaming sur
et
Internet.
Et en streaming, et pour les très nombreux qui
replay,
sont sur Internet.
En replay, en podcast,
voilà.
etc.
Voilà, et vous avez effectivement du replay et du podcast. C'est pas la même chose ?
Si.
Bon, c'est bien ce qui me semblait. Bon, bonsoir Francis, à la semaine prochaine. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
Salut.